Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, qui veut faire rimer vieillesse et sagesse et explorer nos manières de communiquer d'une génération à l'autre. Au moment de la première diffusion de cette 72e émission, nous sommes au début décembre et plusieurs d'entre nous avons besoin d'une bonne dose d'énergie d'ici la période des fêtes. Or, on dirait qu'il y a des gens qui semblent disposer de réserves naturelles d'énergie et qui roulent à 100 à l'heure, peu importe leur âge. Quel est donc le secret des octogénaires et nonagénaires inspirants tels Jeannette Bertrand, Denise Filiatro, Jacques Godbout, Françoise Sullivan, Henri Mintzberg ou Hubert Reeves? La journaliste de La Presse, Judith Lachapelle, a rencontré 14 de ces bâtisseurs du Québec avec son collègue Alexandre Sirois. Elle a regroupé ses entretiens dans le livre 80, 90, 100 à l'heure, 14 octogénaires et nonagénaires inspirants aux éditions La Presse. Je suis curieuse de savoir ce que ces boules d'énergie, grand cœur et tête pensante ont en commun. Quelle perception ont-ils des différentes générations et de l'évolution de la société québécoise? Je suis également curieuse de découvrir comment ils préservent leur santé physique et mentale. J'ai l'impression aussi que ces gens sont devenus de grands communicateurs au fil du temps, grâce entre autres aux nombreuses relations qu'ils ont tissées au fil du temps. Savent-ils mieux choisir leurs mots, comprendre, décrypter le non-verbal de leurs interlocuteurs et s'y adapter? J'ai pensé en discuter avec l'un des spécialistes mondiaux du langage non-verbal, Philippe Turchet, qui republie le grand livre de la synergologie aux éditions de l'Homme, Décoder le langage corporel pour mieux comprendre l'autre. Je réalisais d'ailleurs en préparant cette émission que si le langage, donc le verbal, est au cœur de la radio, le non-verbal est tout autant lorsque je reçois des invités en studio. En fait, c'est grâce au non-verbal avec Maurice Bolduc, notre technicien en régie, que l'émission se déroule en général assez bien. Maurice me fait des signes sur le temps, on prend des ententes sur le déroulement par des gestes et des clignements des yeux, il vient d'ailleurs de m'en faire un, et c'est d'ailleurs dans ses yeux à lui, dans les yeux de Maurice, que je vois si mes enchaînements sont clairs, dans ses yeux à lui que je constate si l'émotion des propos d'un invité a été touchante. C'est aussi dans ses yeux que je confirme que les réponses d'un autre invité manquent parfois de clarté et que j'aurais intérêt à creuser un peu. Maurice est donc le premier auditeur d'Au fil du temps et le premier à danser en studio lorsque les chansons sont entraînantes. C'est d'ailleurs lui qui m'a suggéré la chanson qui ouvre l'émission, une chanson de soleil, une chanson de chaleur, pour contribuer à vous donner de l'énergie. C'est le Mexicain, chanté par Charles Hamon en collaboration avec Charles Aznavour, et on présume que c'est sans doute l'un de ses derniers enregistrements, car l'album est sorti officiellement le 12 octobre 2018 et le grand Charles est décédé le 1er octobre à 94 ans. Il a fait son dernier tour de piste sur des airs de mariachi, alors je vois le signe qu'il faut chanter et danser jusqu'à la toute fin. Écoutons le Mexicain.
Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, en guise de parasol.
Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. Formidable aujourd'hui, ce que j'ai sommeil.
L'existence est un problème à n'en plus finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir.
Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail.
Mais ça suffirait à pousser un homme au travail.
J'ai une soif du tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dé.
Je ne vois que des fauchés tout autour de moi, et d'ailleurs ils ont l'air de tricher aussi bien que moi.
Et pourtant j'ai le gosier comme dit Buvard,
ça m'arrangerait pour moment s'il pouvait pleuvoir. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise de parasol.
Voici venir Cristobal, mon Dieu, qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier.
Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai parié sur lui 10 pesos. Et s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios.
On voit partout les soldats courant dans les rues. Si vous ne vous garez pas, ils vous marchent dessus.
Et le matin, quel boucan, sacré nom de nom, ce qu'ils sont énervants, agaçants, avec leurs canons.
Ça devrait être interdit, un chahut pareil à midi, quand il y a des gens sapristi qui ont tant sommeil.
Un Mexicain basané
est allongé sur le sol,
le sombrero sur le nez. En guise. Je de parasol.
Ah, hombre, hombre.
Hombre tito.
Que ça met du soleil dans cette saison autrement un peu morne que nous tentons de réchauffer ici à Au fil du temps. C'était donc Le Mexicain par les deux Charles, Charles Lamont et Charles Aznavour. Véritable pied de nez à l'âgisme, cet ouvrage paru aux éditions La Presse regroupe 14 entretiens avec des octogénaires et des nonagénaires inspirants qui vont à 100 à l'heure. Issu du milieu artistique, culturel, scientifique, sportif, universitaire et du milieu des affaires, ce sont des légendes vivantes qu'ont interviewé deux journalistes de La Presse, Alexandre Sirois et Judith Lachapelle, que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Judith.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Hey, dites-moi d'abord, expliquez-nous la genèse de ce livre. Pourquoi vous avez décidé là, d'écrire sur ces personnes si inspirantes?
Eh bien, Alexandre et moi, on se connaît depuis plus de 25 ans maintenant. On est des amis de longue date. Et
collègues depuis longtemps
et
à la presse.
Collègues aussi à la presse depuis longtemps, mais on se connaît depuis l'université. Et tout ça. Et on avait souvent des conversations. Donc, on se connaît depuis longtemps. On se voit vieillir aussi. Et on a des conversations sur ça, sur l'âge, sur les années qui passent et tout ça. Et un jour, Alexandre, il y a un an environ, a vu un article sur le magazine américain qui s'appelle Slate. Mm-hmm. Ils ont fait un palmarès des octogénaires les plus influents aux États-Unis. Mm-hmm. Donc là-dedans, il y a notamment le docteur Fauci, dont on entend souvent parler parce qu'il est c'est lui qui est à la tête de la riposte contre la COVID-19.
Ouais.
Et les instances gouvernementales pour ça. Il y a Nancy Pelosi, mm-hmm. qui est présidente du Congrès aussi. Donc, il y a vraiment des noms importants. Clint Eastwood au cinéma, tout ça. Donc, on trouvait ça intéressant. Et Alexandre a dit, chez nous, c'est qui les octogénaires qui sont encore très actifs et tout ça. Donc, on s'est mis à chercher. Et mm-hmm. puis, on en avait beaucoup. On s'est mis à faire une liste. Et il y avait vraiment, vraiment beaucoup de gens. On s'est dit, il faut absolument qu'on parle à ces gens-là pour connaître leurs secrets. Alors, mm-hmm. nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé à 14 personnalités octogénaires. Ce n'est pas comme un palmarès. On ne prétend pas avoir déterminé les 14 octogénaires et nonagénaires les plus influents du Québec. Ce n'est pas du tout ça. Non. L'idée, c'était de parler avec des gens qui avaient différents parcours de vie, qui étaient encore actifs aussi dans la vie publique ou dans ce qu'ils aiment faire. Et d'en parler avec eux, de parler de la vieillesse, de parler de l'idée de retraite, qui semble certains n'ont pas l'air de connaître ça, ça a l'air de faire partie de leur vocabulaire ou leur style de vie. Et donc, c'est ça, on a mené nos entrevues au l'hiver et le printemps dernier, et voilà, le livre est paru.
Effectivement, c'est un trait commun à la lecture de votre livre où plusieurs disent qu'ils n'ont jamais pris leur retraite. Jeannette qui parle que c'est une fausse idée. Françoise Sullivan, artiste peintre donc qui a participé au refus global, qui dit que c'est la retraite qui fait vieillir. J'ai appris grâce au sociologue Guy Rocher que la retraite était obligatoire autrefois à 65 ans.
Dans certains secteurs, là, mmh. très certainement. Il parle, lui, notamment à l'université. Il dit, je me souviens avoir vu des drames un peu se produire chez certains de ses collègues qu'on forçait à prendre leur retraite alors qu'ils n'étaient pas prêts. Et lui, heureusement, quand est arrivé son tour, ça avait été repoussé, de sorte qu'il a continué à être actif à l'Université Laval, si je me souviens bien, puis un peu partout. Mais il l'est toujours, mais il a comme enseigné passer 70 ans là, comme il faut. Là, puis,
ben oui, un bon 20 ans de plus.
C'est ça. Et là, bon, il y a 97 ans et on le voit encore. Là, il participe à des commissions. Mm-hmm. Il intervient encore publiquement. Donc, la retraite, c'est pas seulement d'arrêter de faire certaines choses, mais c'est eux, ils changent un peu de carrière. Comme, par exemple, Lucille Wheeler, qui était la première skieuse à remporter une médaille olympique mm-hmm. Dans les années 50. Bon, c'est sûr qu'elle a pris sa retraite de la compétition. Voilà un bon moment. Donc, mais elle a 86 ans aujourd'hui et elle skie toujours. Donc, ça nous intéressait de savoir un peu comment elle voyait ça, quelle place ça occupait encore dans sa vie, le sport en général, le ski, et comment elle continuait à faire ce qu'elle aime.
Qu'est-ce qui vous a paru comme le trait commun de ces 14 personnes, ce qui explique un peu qu'ils sont toujours aussi en forme et dynamiques?
Hubert Rive l'évoque un peu, il parle beaucoup de curiosité. Mm-hmm. Ça, c'est sûr que c'est un trait commun chez tous les gens à qui on a parlé. Ce sont tous des gens qui sont encore curieux d'apprendre, curieux de lire, curieux de parler avec les gens et de se tenir au courant de ce qui se passe. Donc ça, ils sont, c'est pas tant d'être actif physiquement, c'est sûr que c'est important pour l'entretien, comme mm-hmm. disait Antonine Maillet. Elle a besoin de faire un minimum d'exercice, de marcher tous les jours, tout ça, mais pour entretenir la machine. Mais pour entretenir le cerveau aussi, tous les gens à qui on a parlé, ils sont encore très actifs pour toutes les activités là intellectuelles, c'est mm-hmm. ça qu'ils aiment faire, c'est ça qui les tient encore très motivés. Et le moteur de ça, souvent, c'est la curiosité, c'est le désir d'en apprendre plus et de rester alerte.
Je remarquais aussi l'engagement dans la société, ça semble aussi être un fil conducteur.
Oui, tout à fait. Ces gens-là aussi sentent qu'ils ont des choses à dire, qu'ils ont des choses à apporter aussi à la société. Puis, ils se gênent pas pour, pour le dire, le faire savoir, mm-hmm. et prendre la parole aussi. Souvent, ils déplorent, certains vont déplorer qu'on les écoute pas assez, Mais c'est, il reste encore, ben, parce que la plupart d'entre eux avaient une vie publique aussi, là, donc c'est sûr que quand on parle à des personnes qui sont moins dans la vie publique, on les entend pas, mais ils sont actifs dans leur domaine. Donc, mais les gens qui ils sont tous impliqués dans leur communauté ou dans leur métier ou ils ont ils font des recherches comme Denis Vaugeois est historien, il continue à écrire des livres, mais il se consacre encore beaucoup à sa passion là. Je trouve que ça.
Bien, quelque chose qui m'a fascinée de ses propos, oui, effectivement, homme qui a été très engagé, qui a été député, ministre, fondateur de maison d'édition, c'est quand vous avez demandé à quel âge vous avez réalisé qu'ils étaient vieux.
Oui.
Et sa réponse à lui, c'était quand ma fille a eu 60 ans.
Oui. Ça, oui, je me suis dit, ça nous a surpris aussi, puis... bon, moi, j'ai des enfants un peu plus jeunes, c'est ça, mais c'est vrai qu'à chaque anniversaire qui passe, ça fait un petit saut. On fait comme, oh là là, c'est vrai, quand nos enfants vieillissent, là, tout à coup, on se souvient comment on était à cet âge-là, puis ça nous fait prendre un coup de vieux. Mais c'est vrai aussi pour quand on a des petits frères ou des petites sœurs, on les voit vieillir aussi, puis quand nos parents aussi vieillissent. Mais lui, c'est ça, quand sa fille a eu 60 ans, ça l'a beaucoup marqué. Jeannette Bertrand disait qu'il y avait des passages, comme ça, le passage à la trentaine, à la quarantaine, ça c'est difficile. Elle dit 70. 70, ça c'est bien dur.
Moi, c'est ce que
j'ai. 70, on peut plus dire jeune, là, qu'elle disait.
C'est ce que j'ai lu. Et un qui m'a particulièrement marqué parce qu'il ne s'inscrivait pas nécessairement dans ce ah, c'est il y a quelque chose dans la joie, vieillir dans la joie, c'est Jacques Godbout. Qui a publié là, un essai quand même assez corrosif il y a certains temps sur l'invisibilité, je crois, des personnes âgées.
Oui, mais c'est comme on l'écrit, c'est celui qui a le discours, disons, le moins...
Oui, hop la vie, là.
Hop la vie, là, oui. Mais on trouvait ses réflexions très intéressantes. Oui. Il dit les choses crûment, il les dit aussi... c'est très intéressant, sa plume. C'est la seule de des personnes à qui on a parlé qui a correspondu avec nous de façon écrite. Et ça se sent vraiment. On entend ses mots dans ce qu'il écrit. Donc, on le sent beaucoup dans son discours. Il a des observations très fines aussi sur la vieillesse. Très sévère. Certains nous ont dit, des lecteurs là, qui ont trouvé qu'il était vraiment... qui était plus... en tout cas, il n'était pas optimiste du tout, puis il les avait découragés, mais d'autres qui ont apprécié, qui disent les choses aussi plus franchement. Là, parce que c'est vrai que la vieillesse n'est pas facile pour tout le monde, mais de toute façon, même ceux qui trouvent, qui ont un discours très positif, reconnaissent que, comme Jeannette Bertrand dit, je pourrais faire la liste de mes bobos physiques. Ils ont tous aussi, ça vient avec la santé physique qui décline. Mais c'est ça. Jacques Godbout vraiment met des mots très francs, là, très crus sur la vieillesse.
Oui, après 75 ans, on est hors jeu, hors d'ordre. Et surtout, la phrase qui m'a marqué, c'est « on m'a débranché ».
Oui. Oui. Ben, d'autres vont dire un peu d'une certaine façon, comme Jeannette Bertrand déplore qu'elle a continué ces dernières années à proposer des projets d'émissions de télé qui n'ont pas été acceptés. Et donc, elle aussi, elle sent qu'on la met à l'écart, qu'on ne veut pas entendre, on veut plus entendre, au moins entendre ce qu'elle a à dire. Ça amène tout ça une belle réflexion, c'est effectivement est-ce que on est trop sélectif, est-ce qu'on doit que ces gens-là ont des choses à nous dire, donc vaut mieux ça serait une bonne idée de les écouter.
Parlant d'entendre, Judith, on va aller en musique avec deux autres monuments québécois qui vieillissent très bien, Gilles Vigneault et Louise Forestier, dans la pièce « Ma jeunesse », et on se reparle tout de suite après.
Parfait, merci.
Je n'ai pas fait tout mon chemin, que déjà je tourne la tête pour découvrir comment c'est fait ma jeunesse, et je n'en sais rien. Ma jeunesse, et je n'en vois rien. Elle a dû passer poliment, et pour ne déranger personne, n'a laissé que l'écho qui sonne au fond de la tête et qui ment, au fond de ma tête et qui ment.
Peut-être sans que je l'ai su, avons-nous fait la route ensemble, tout le long de ces jours qui tremblent, d'être passés inaperçus, d'être passés inaperçus.
J'ai pourtant cueilli mes saisons sans en laisser échapper une. J'ai pourtant payé à la lune ma part de rime et de raison, ma part de rêve et de chanson.
Je m'en venais d'après le vent, afin que tu me reconnaisses.
Et si j'ai croisé ma jeunesse, l'aurais laissé passer devant.
Je l'ai laissé passer devant.
Ma jeunesse, chantée par Gilles Vigneault et Louise Forestier. Judith, parlant de jeunesse, vous avez demandé à certains des personnes que vous avez interviewées s'ils avaient un message à envoyer à la personne qu'ils étaient à 18 ans. Quelles ont été les réponses les plus surprenantes?
J'essaie de me souvenir.
Il y avait Denise Filiatro, entre autres.
C'est ça, mais elles n'avaient pas souvent de conseils à donner à la personne qu'elles étaient à 18 ans. La plupart referaient les choses de la même façon, si ce n'est que elles auraient peut-être souhaité avoir plus confiance en elles, parfois, leur dire t'en fais pas, tu vas avoir une belle carrière, mm-hmm. tu vas arriver. Je me souviens d'Henry Minter aussi, qui disait qu'il avait perdu beaucoup de temps à essayer de se prouver à son père ou tout ça, qu'il allait faire quelque chose. Donc, c'était souvent touchant autour de ça, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance et de foncer. Donc, je dirais pas que c'est des regrets nécessairement, parce que ça les a pas nécessairement empêchés de faire beaucoup de choses dans leur vie. Mais c'était ça porte à réflexion certainement après ça. Quand on lit ça en étant un peu plus jeune,
oui, c'est ça.
on se retourne, on se pose la même question. Puis on se dit comment, peut-être quand j'aurai 80 ans, qu'est-ce que je vais penser de moi à l'âge que j'ai? Est-ce que j'aurais voulu, est-ce qu'il y a des opportunités, des occasions que je suis en train de laisser de côté? C'est ça, est-ce que je devrais saisir des occasions? Est-ce que je devrais, les questions que je me pose en ce moment, est-ce que ce sont les bonnes? Mm-hmm. Donc, c'est tout le long de la rédaction de ce livre-là, évidemment, les questions qu'on posait aux gens, souvent, on se les posait à nous-mêmes en même temps.
J'imagine. Et justement, l'une de ces questions-là, peut-être, en terminant, parce que c'est une grande question, qu'est-ce que vous avez vu dans leurs propos, de leur perception, de la différence entre les combats de leur génération quand ils étaient jeunes et les générations de maintenant? T'sais, j'entendais des propos, entre autres, sur la langue française, sur le pouvoir de l'Église.
Oui. Guy Rocher, Jacques Godbout, évidemment, ils ont vécu tout ça de près. Ils déplorent parfois, dans le cas de Godbout, qu'au Québec, la défense de la langue française n'est pas prise avec autant de vigueur et passion que peut-être eux l'auraient fait à l'époque ou souhaiteraient que ça se fasse aujourd'hui. Mais on sentait pas nécessairement tant de jugement que ça envers les jeunes.
Non, effectivement, j'ai pas entendu ça.
C'est ça, on sentait quand même beaucoup de tolérance et de ils se sont gardés aussi je pense pas qu'ils se sont retenus de faire la leçon aux plus jeunes, mais c'est juste qu'ils n'en voient pas nécessairement la nécessité. Ce sont des combats, des époques très différentes. Ils en sont bien conscients. C'est un monde très différent dans lequel les plus jeunes vivent et évoluent aujourd'hui. Donc, certains ont des propos un peu, comment on pourrait dire, comme étant un testament de ce qu'ils ont fait, mais ils sont pas vraiment tourné vers le passé non plus. Puis l'objectif n'était pas non plus de faire leur biographie, tout ça. Ils parlent beaucoup au présent. Et ils parlent beaucoup aussi de l'avenir, mais de leur avenir. Ils ne parlent pas du jour où ils ne seront plus là. Ils parlent de eux, ce qu'ils font en ce moment et ce qu'ils comptent faire dans les prochaines années, que ce soit des idées de livres qu'ils veulent faire, des tournées, des conférences. Et ça, c'était quelque chose aussi qui nous fascinait. Ils ont tous des projets.
Absolument.
Ce qui garde très, très en vie et très animé aussi, c'est qu'ils ont tous vraiment
Judith,
sur la planche. Là.
Judith, je souhaite d'ailleurs un bel avenir à votre livre qui s'appelle 80-90-100 à l'heure, 14 octogénaires et nonagénaires inspirants aux éditions La Presse. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous.
Merci beaucoup. Bon après-midi.
À vous aussi, au plaisir. Après la pause, on parle du langage non-verbal.
Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré.
Oui, la grande Jeannette que l'on retrouve dans l'ouvrage qu'on vient de présenter sur les octogénaires et nonagénaires inspirants. La préface du livre est d'ailleurs signée par la pétillante Michèle Labrèche-Larouche que nous avons reçue deux fois au fil du temps, le 4 mai 2021 et le 3 novembre 2020. Je vous invite à réécouter ces épisodes sur canalem.vusezvoix.com, sur également les plateformes de balado, diffusion, Spotify, Apple Balado et Google Podcast. Après la pause, après la pièce musicale, on a le plus grand plaisir de recevoir Philippe Turchet, qui est le grand spécialiste mondial, de la synergologie, qui est la science qu'il a développée autour du non-verbal. Il a accepté de nous parler en direct de Paris. Alors, nous lui offrons, pour débuter l'entretien, de la musique par des concitoyens européens, Alain Souchon et Laurent Voulzy, derrière les mots.
Est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur? seulement la la la. Derrière nos voix, est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur, ou seulement la la la. Entendez-vous dans les mélodies, derrière les mots, derrière nos voix, les sentiments,
Derrière les mots d'Alain Souchon et Laurent Voulzy. Et c'est justement des émotions qui naissent derrière les mots dont j'ai envie de m'entretenir avec Philippe Turchet, docteur en sciences du langage, chercheur associé au laboratoire Mots-Dico à l'Université Paris-Nanterre et surtout le grand Manitou derrière ce grand livre de la synergologie. Bonjour Philippe Turchet.
Bonjour.
Votre ouvrage, qui est en fait une refonte complète, une actualisation complète, qui a été traduit en 15 langues, est très, très riche. Et ici, au fil du temps, on s'intéresse beaucoup aux relations familiales et aux liens intergénérationnels. Alors, j'étais curieuse de savoir comment le langage non-verbal vit à travers les générations.
Ah oui, c'est quelque chose qui est bien compris aujourd'hui, qui est, disons, mieux compris depuis les années 1990 environ. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, un bébé, quand il arrive au monde, hein, quand il entre dans le cycle de la vie, il va comprendre le sens du monde à travers les mimiques de sa mère et puis après les mimiques de son milieu. c'est parce que sa maman lui explique que les choses sont bonnes, en ouvrant les grands les yeux, que l'enfant comprend que bon, c'est bien. Voyez, et ainsi, que ça veut dire qu'il va aller chercher les émotions de sa mère, mais ses mimiques faciales surtout, et ses mimiques faciales vont lui prescrire, lui donner, lui proposer le sens du monde. Mmh. Alors ça, c'est la mère, c'est les toutes premières semaines, les tout premiers mois de la vie. Mais ensuite, ça va être les mimiques de son milieu qu'il va aller chercher. Et c'est comme ça qu'il comprend les choses, en fait, et que son intelligence se développe. Donc c'est d'abord des mécanismes de résonance motrice, et puis ensuite, ça va devenir des mécanismes liés à ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont mieux connus aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça, c'est que... Alors c'est pour ça que d'un enfant à un autre, en fait, on va s'apercevoir que il y a quelque chose d'assez universel, mais pas uniquement universel. Il y a quand même les mimiques de notre milieu, des gens qu'on aime, qui sont importantes pour nous. Bien, c'est celle-là que l'enfant va aller chercher le plus, va par mimétisme épouser le plus. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait très bien retrouver un déplacement facial qui est très signifiant chez un père, chez un grand-père, chez une mère, chez une grand-mère, qu'on va retrouver chez son petit-enfant, parce que ce petit-enfant, il fait l'effort d'aller chercher la mimique de cette grand-mère qui lui plaît tant, ou de son grand-père qui a tellement de sens pour lui.
Donc, il y a l'apprentissage du monde à travers le non-verbal. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est parfois des airs de famille, qu'on va même reconnaître des gens à travers des mimiques qu'ils font, des gestes où on va dire « Ah, je reconnais ton père ou je reconnais ta mère à travers ce geste ».
Oui, mais c'est tout à fait, c'est ça. Parce que, en fait, vraiment, le bébé, le petit enfant, qui ne comprend pas encore le langage verbal, sa seule manière de comprendre le monde, en fait, c'est d'aller aspirer, en fait, les mimiques de son milieu. Et si vous êtes en colère, vous voyez, les yeux se froncent. Le bébé ou l'enfant petit va avoir les yeux qui vont se froncer aussi, et il va comprendre la colère du parent à travers ses yeux qui se froncent. Les parents, les six premiers mois de la vie, c'est essentiellement la mère, mais ensuite, ça va être les parents. Mais on dit les six premiers mois, mais dès le premier jour de vie, entre le 1 et 3 premiers jours de vie, quand un adulte tire la langue à un bébé, le bébé naissant, le bébé naissant, il a de grandes chances qu'il lui réponde en tirant la langue lui aussi de son côté. Donc c'est vraiment un mécanisme qui est lié à l'évolution. Et c'est ce qu'on appelle, c'est une résonance motrice. Donc ça veut dire qu'après, effectivement, les personnes les plus signifiantes, eh bien, sont celles qu'on va aller par mimétisme rechercher, par ce qu'on va appeler ensuite par empathie rechercher, une empathie émotionnelle à ce moment-là. Oui.
Et si on est plusieurs sœurs et frères et qu'on voit que certains frères ou sœurs ont davantage, on dirait, les mimiques des parents, est-ce qu'il y a une raison qui peut expliquer ça?
Je pense que sans doute l'enfant est allé chercher chez ses personnes signifiantes leur mimique parce que pour eux ces personnes étaient plus signifiantes que d'autres. Et puis aussi ce qu'on voit c'est qu'il y a des adultes dont le corps résonne davantage que d'autres. Il y a des gens qui font davantage de mimiques que d'autres. Donc pour l'enfant ces mimiques parce que ces adultes-là aussi sont les plus signifiants, eh bien il va aller les épouser. Mais c'est vraiment, vous voyez, un mécanisme empathique, profond. Et c'est pas quelque chose de si automatique que ça. C'est automatique à la naissance, mais en fait, on s'aperçoit, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de contre-empathie. C'est-à-dire que quand un enfant ou quand un adulte, d'ailleurs, apprécie pas quelqu'un, eh bien, ses neurones miroirs ne fonctionnent pas. Et il n'y a pas d'empathie. Donc, je crois que certains adultes vont chercher avec leurs petits-enfants, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ils vont aller communiquer comme ça, et par échange facial principalement, ça se passe beaucoup de visage à visage. Après, le corps va entrer en jeu, mais au départ, c'est de visage à visage. Un enfant, avant 6 mois, il ne voit pas le monde en 3 dimensions, il ne le voit qu'en 2 dimensions. Il ne voit pas très loin, il le voit à 20 centimètres, donc il faut être très près au début. Et puis, peu à peu, ça va se construire, mais c'est parce que il y a des adultes qui vont devenir plus signifiants que lui, pour lui. Alors ça veut dire aussi que certains timbres de voix, certains timbres vont participer aussi au fait que l'enfant va davantage s'intéresser à ces adultes que d'autres. Alors dans une fratrie, les enfants sont pas tous intéressés par les mêmes personnes, ne sont pas tous le même rapport aux mêmes personnes. Et je pense qu'on peut expliquer ainsi comment, comment certains adultes vont être plus signifiants que d'autres pour les enfants.
On incite de plus en plus les familles, les parents, les hommes, entre autres, à exprimer verbalement leur amour. Et on disait autrefois, bon, des hommes d'une autre génération, des hommes de peu de mots. Comment vous croyez que pour un enfant, le fait d'entendre qu'il est aimé versus une tape dans le dos, un regard tendre, juste une main sur l'épaule,
Je pense que pour l'enfant, ce qui va se passer d'un point de vue, on parle de l'enfant petit, là, pour lequel les mots, la résonance des mots va se faire plus tard, mais un enfant petit, je crois que ce qui se passe d'un point de vue non-verbal, c'est essentiel. Hein. On montre qu'un enfant, d'ailleurs, on a vu ça en Roumanie au moment de l'époque Ceausescu, là où les enfants se sont retrouvés dans des orphelinats tout seuls, sans parents autour d'eux et sans lien de signifiance autour d'eux, sans tuteur de résilience possible, hein, qui étaient comme ça livrés à eux-mêmes. Eh bien, on s'est aperçu que ces enfants-là, pour certains, avaient cessé de se développer, et on a compris que s'ils avaient cessé de se développer, on a pensé et compris que s'ils avaient cessé de se développer, c'est aussi parce que ces enfants-là étaient peu touchés par des gens qui les aimaient. Mmh. Et donc, la tape dans le dos, le regard sincère, le regard chaleureux. Vous savez, quand on se rapproche de quelqu'un, les caméras thermiques montrent que le visage devient plus chaud. C'est vraiment, quand on dit que quelqu'un est chaleureux, c'est pas qu'une expression, c'est vraiment, c'est vrai, le visage devient plus chaud quand on s'approche de quelqu'un. Eh bien, quand vous souriez à quelqu'un, vous allez voir, sourire à quelqu'un, ça fait avancer votre visage plutôt que de le faire reculer. Et derrière un sourire, il y a des tas de choses, il y a un corps qui s'avance, même si c'est très, très fin, s'il faut vraiment l'observer, et il y a comme ça des mécanismes de chaleur qui se déclenchent et à notre insu.
Et donc, quelqu'un qui regretterait que ses parents ne lui ont jamais dit « je t'aime » ou un ami ou peu importe, aurait peut-être intérêt à observer davantage le non-verbal pour ressentir l'émotion, même si les mots n'ont pas été dits.
C'est sûr. Maintenant, on parle de ce qu'on appelle l'alexithymie. Vous savez, l'alexithymie, on pense que dans nos pays développés, un adulte sur 10 serait touché par ce mécanisme.
Alexithymie.
L'alexithymie, oui.
D'accord.
L'alexithymie, c'est le fait de ne pas savoir identifier ses émotions. Mm. Ça veut dire que là où vous êtes mal et puis vous avez une boule dans la gorge quand vous êtes mal, un adulte alexithymique, un enfant, mais a fortiori un adulte, un adulte alexithymique, ça va être une personne à qui on va dire « mais tu te sens comment là ?» La personne va vous dire « je sais pas comment je me sens, mais tu t'es bien, t'es mal, je sais pas, physiologiquement. » Et la personne va dire « ben là j'ai une boule dans la gorge. » Mais c'est agréable, désagréable, et la personne va dire « je sais pas, c'est une boule dans la gorge ». Et vous voyez, c'est ça parce que c'est important que les parents disent, mais disent en montrant. Mm-hmm. Et de traduire les émotions qu'eux-mêmes ressentent et aider l'enfant à comprendre les émotions qu'il ressent. En lui disant, par exemple, oh là, t'as l'air en colère, là, je vois que tes traits sont fermés, ouh, comme t'as l'air content, tu as l'air heureux, tes yeux sont grands ouverts. Vous voyez, un enfant petit, eh bien, ça lui permet de comprendre ce que c'est que d'être heureux, comprendre ce que c'est que d'être malheureux, comprendre toute la force des émotions. Et ça, c'est très, très important, parce que sans ça, l'enfant, si on parle jamais, si on n'emploie jamais de vocabulaire émotionnel, il comprend pas ce qu'il ressent. Et s'il ne comprend pas ce qu'il ressent, c'est aussi ce qui va faire que plus tard, il fera les mauvais choix, parce qu'il ne se rendra pas compte qu'il est mal à l'aise avec quelque chose. Et comprendre qu'on est mal à l'aise avec quelque chose, c'est souvent important. Ça peut même être lié à la survie.
Absolument. Vous parliez il y a quelques instants de rapprochement et j'étais curieuse de savoir en quoi la pandémie va affecter justement la relation non-verbale, maintenant qu'on ne serre plus la main, qu'on ne donne plus de bises sur les joues.
Oui, non, c'est sûr que c'est... On ne peut pas dire que c'est dramatique ou pas dramatique, on n'en sait rien, on verra bien. Mais le fait de ne pas se voir le visage fait qu'il y a toute une partie de... Mais dans les garderies, on commence à se rendre compte de ce phénomène-là. Mmh. Des petits-enfants qui ont grandi avec des adultes et des adultes qui avaient des masques sur le visage. Et donc, il y a toute une partie de la communication qui est perdue. Et je pense qu'il faut vraiment le recréer par le lien verbal à ce moment-là. parce que le fait de ne pas se voir permet de pas, empêche de se comprendre. Et donc, il faut vraiment surcompenser, d'autant plus qu'on se rend compte, moi je pensais vraiment au début de la pandémie que le fait de masquer la bouche fait qu'on allait davantage communiquer avec la zone du regard. Mmh. Les sourcils allaient jouer davantage, ils ont un rôle important les sourcils dans la communication, et que les sourcils qui se lèvent, qui se baissent... Mmh. Les émotions principales passent beaucoup par les mouvements des sourcils. Mais on s'aperçoit que c'est pas ça. On s'aperçoit que, avec le masque qui est sur la bouche, c'est pas que le masque qui est sur la bouche et sur le nez, c'est qu'en fait, on décide de désaffecter la zone du visage. Mmh. Ça veut dire que la personne n'utilise plus son visage pour communiquer. Et donc, wow. Tous ces messages qui passent de message à message passent plus maintenant. Et on surcompense pas par le langage verbal, c'est sûr. Donc, il y a quelque chose qui est perdu, là. Alors, comment on va récupérer ça? Comment on va faire? Je pense qu'il faut travailler davantage avec des images, montrer des livres où il y a des émotions, rentrer dans ce monde émotionnel comme ça. Et les parents, là, ont un travail. Les parents, les grands-parents, le milieu, la famille, les gens qui aiment, les gens qui sont proches de ces enfants qu'ils aiment. C'est important, là, de surcompenser ce que ces enfants ne vivront pas dans l'interaction quotidienne.
C'est une mise en garde très, très importante que vous nous donnez. Votre livre gorge d'images, de manières d'interpréter. J'étais curieuse en terminant, là, peut-être de vous entendre faire une mise en garde face à certains... peut-être idées reçues qu'on exprime trop souvent. Par exemple, la personne a les bras croisés, donc elle est fermée.
Oui, c'est sûr. C'est oui, il y a des choses qu'on a appris comme ça, on a appris que quand on a les bras croisés, on est fermé, alors que c'est pas vrai du tout. Si vous avez les bras croisés, mais que vous avancez vers l'autre, c'est souvent vous fermez vos bras pour pas prendre trop de place, mais en avançant, vous montrez à l'autre que vous lui donnez toute la place pour qu'il puisse s'exprimer. Bon, maintenant, si on recule en croisant les bras, là, c'est de la fermeture. Mais tous les bras croisés sont pas de la fermeture. De la même manière, par exemple, on a appris que celui qui regarde pas dans les yeux est un menteur. Mmh. Alors que c'est sans doute exactement le contraire. Parce que, là encore, ça se place au niveau de l'enfance. Un enfant qui a l'air d'avoir fait une bêtise et puis qui n'ose pas le dire, les parents vont lui dire, tu pourrais me dire ça en me regardant dans les yeux? L'enfant qui vient de mentir pense qu'il vient de se faire prendre parce qu'il ne regardait pas dans les yeux. Et pour la vie entière, il a compris que pour bien mentir, fallait regarder dans les yeux. Et donc, c'est précisément celui qui vous regarde franchement dans les yeux qui a plus de franchement dans les yeux en affirmant des choses, mais est sans doute plus menteur que la personne introvertie qui dit la vérité, mais qui a un petit peu de mal à regarder l'autre dans les yeux parce qu'elle est plus introvertie et a un regard plus fuyant. Alors, c'est très drôle. Donc, vous voyez, ça, c'est des stéréotypes. Et c'est le problème de nous, des êtres humains, c'est que ces stéréotypes font qu'on croit beaucoup de choses sur le langage corporel, beaucoup de choses qui sont fausses. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Il y a des tas d'exemples.
Oui, d'ailleurs, il y a des tas d'exemples en terminant dans votre livre, Philippe Turchet, où j'ai reconnu aussi, par exemple, on parle des gens qui sourient beaucoup, puis on se rend compte que le sourire n'est pas nécessairement un signe là, de chaleur ou d'ouverture.
Mais tout à fait, quand on est mal à l'aise, on va sourire. C'est une manière de dire à l'autre, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et puis c'est une manière, mais comme on sourit, l'autre a l'impression que tout va bien. Mais quelqu'un qui est en face de nous et qui n'arrête pas de sourire en nous regardant, c'est souvent qu'il y a un malaise. D'ailleurs, ce sourire social a tendance à tomber lorsque les gens se connaissent. Et par exemple, en psychothérapie, ça a été assez bien étudié. À mesure que la psychothérapie avance, eh bien, le sourire disparaît. Parce que quand on a un lien vrai à l'autre, on n'a plus besoin de ce sourire social. C'est un sourire de convenance qui est un sourire normal. Hein. C'est bien de se sourire quand on se rencontre, parce que c'est bien, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, mais ce sourire quand on se rencontre, c'est montrer à l'autre qu'on est attentif à lui, qu'on a envie de le rencontrer. Mais une fois ce sourire social de convenance, le temps de ce sourire de social de convenance passé, eh bien, revenir avec un visage qui est beaucoup plus neutre, mais aussi beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, c'est souvent bien plus gagnant.
Merci d'avoir pris le temps de nous parler en direct de Paris, je crois.
Oui, c'est ça. Je suis à Paris là, en ce moment, oui.
Donc, j'invite nos lecteurs à se procurer le grand livre de la synergologie, décoder le langage corporel pour mieux comprendre l'autre aux éditions de l'Homme. Il y a tout plein de nuances dans ce livre-là qui rendent l'étude très intéressante. Un grand merci à vous.
Merci. Merci.
Au revoir. Alors voilà, revoir. Un seul geste de Françoise Hardy.
Ni direction, ni boussole, ni signal, ni repère. Rien qu'un banal jeu de rôle, sans endroit ni envers. Trop de paroles en l'air, et voilà qu'on s'y perd. Où aller, que faut-il faire? Une main tendue, une épaule, une halte nécessaire. Dans cette course vaine et folle aux bonheurs éphémères, trop d'amour délétère, de retour en arrière. Comment voir un peu plus clair? Suffirait-il d'un seul geste, nous parler lâcher du lest, essayer de nous connaître pour pouvoir renaître? Car tous les marqueurs s'affolent et le temps s'accélère. Nulle part les mots qui consolent, qui rassurent ou éclairent. Des couleurs, une lumière, quelques fleurs, un feu vert, un espoir qui pousse à faire. Le seul geste de laisser la porte pour que le malheur déserte nos cœurs et nos têtes. Suffirait-il d'un seul geste, de la douceur qui s'apprête à calmer les plaies secrètes, chasser le mal-être? Un seul geste, c'est
seul geste de Françoise Hardy. Il est un geste qui devient de plus en plus populaire et que malheureusement je ne connais pas encore, mais qui vraiment l'engouement me fascine, c'est celui du tricot. J'ai participé ce week-end dernier à un marché de Noël et j'ai vu de jeunes tricoteuses qui produisent, ma foi, des choses fort jolies. Et j'ai appris par un article de Radio-Canada qu'il y avait de plus en plus de cours de tricot en groupe ou même des soirées de tricot en groupe. À Vancouver notamment, il y a même des gens qui ont parti des boîtes d'échange d'écheveaux de laine ou de matériel de tricot qu'on peut s'échanger un petit peu comme les livres. Alors, s'il y avait des gens parmi vous qui connaissent l'art du tricot, qui ont envie de me l'enseigner, je suis preneuse. C'est ainsi que se termine notre 72e émission. Merci à Judith Lachapelle, autrice de 90-100 à l'heure, 14 octogénaires et nonagénaires inspirants aux éditions La Presse, et à Philippe Turchet, le grand livre de la synergologie aux éditions de l'Homme. son site internet synergologie.org. Un grand merci à notre équipe, Maurice Bolduc en régie, notre premier auditeur, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, on parle du fameux phénomène des yil et des yel avec un chercheur spécialisé sur le sujet. Il s'appelle Robert-Paul Juster et nous recevons également la plus jeune mairesse du Québec à 21 ans, Isabelle Lessard. Sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une semaine magnifique. Portez-vous bien.